De retour à mon cabinet, je fus informé par des personnes de mon entourage que je m'étais porté au chevet de Nestor. Puis de Zadig Gougougnan, pense l'historien Jean-Pierre Sainton à cause de son jeune âge, et de Esmaïl. Le temps semblait s'être arrêté. La stupeur, l'effroi, la peur avaient laissé la place à la colère, puis à la révolte. C'est cette ambiance d'agitation, d'effervescence qui régna tout l'après-midi. En début de soirée, des jeunes devaient se présenter à mon cabinet, prêts à en découdre, à rendre coup pour coup, à payer le prix du sang. Ils allaient riposter. Ils ne laisseraient pas ces crimes impunis. Ils entendaient venger la mort de leurs frères. J'estimais, quant à moi, qu'une mobilisation silencieuse lors des obsèques de ces martyrs aurait plus d'impact, car l'unité et la dignité me semblaient correspondre à des valeurs vertueuses qui forceraient le respect. Un peuple qui tient et qui se tient, qui tient son rang et qui se tient droit, fait preuve, à mon sens, d'un degré de maturité qui rend plus efficace des luttes pour son autodétermination, voire pour la simple résolution de ses problèmes quotidiens. Je ne suis pas arrivé à les convaincre de choisir la voie médiane de la dénonciation pacifique. Mais peut-on raisonnablement raisonner en pareille circonstance? Ce fut l'affrontement d'une rare violence. Il y eut l'émeute et la répression fut sanglante. Les forces policières ont tiré en ce beau mois de mai sans sommation et sans distinction, parfois même sous de paisibles promeneurs, les abandonnant à leur triste sort de victimes collatérales, M. Solange Boudrieux, M. Émile Hernatus. L'ambulance qui ramenait le docteur Bassaou à son domicile fut mitraillée. Je soignais des blessés toute la nuit. Toute la nuit, en effet, les chars ont sillonné la ville. Toute la nuit, la chasse s'est poursuivie. Toute la nuit, gendarmes et policiers ont canardé. Une nuit sombre qui avait déménagé les étoiles. Et comme la lune s'en foutait et que Dieu dormait à point fermé, elle avait pris congé de toute clarté. Ce fut un massacre, une répression aveugle, sauvage, impitoyable, une nuit abominable, sortie tout droit de l'enfer. De tous les émeutiers, les gens habitant les cases de la cour Montbruno, de la cour Zamia et des cours avoisinantes étaient les plus nombreux, les plus impliqués, les plus vindicatifs, les plus exposés. Un grand nombre réussit à se réfugier au détour des cours sinueuses chez les habitants qui, au risque de leur vie, devinrent à jamais nos premiers justes ignorés. D'autres, en revanche, restaurèrent comme un réflexe pavlovien les traces du marronnage entre le Mont-Jolivière, les zones brasées de Chauvel, de la Brousse et de Besson. Ils avaient eu la vie sauve par leur connaissance des lieux. Ces cours sinueuses étaient devenues des cours indices. Il me plaît de souligner le dévouement, le travail considérable et sans relâche qui fut celui du personnel de l'hôpital général de Pointe-à-Pitre pendant tout le déroulement de ce drame. Les médecins, les infirmiers, les aides-soignants avaient regagné leur poste avec une célérité exemplaire et chacun, avec sa compétence, s'était mis au service de la population pour sauver ceux qui pouvaient l'être. Tous ces anonymes ont contribué à apaiser les souffrances d'un peuple martyrisé qui faisait l'amère expérience de la brutalité postcoloniale, de l'écart entre une société de droit porteuse de valeurs démocratiques et la réalité d'un État réactionnaire et sans état d'âme. J'ai revu certains de ces jeunes après ces événements. Beaucoup d'entre eux avaient subi des interrogatoires musclés. La machine répressive qui semblait sans visage n'avait pas seulement tué et blessé, elle avait aussi corrompu les consciences et beaucoup devinrent délateurs de circonstances ou se mirent tout simplement dans le rang.